Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors un peu de chamboulement ce soir parce qu'il y a un match de football et j'avoue que tout le monde est arrivé au dernier moment dans le studio, mais tout le monde est là. Et surtout autour de moi, Philippe Christel pour cette émission. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrick.
Alors ce soir une émission effectivement chargée, nous recevrons le rédacteur en chef adjoint de Causeur, Daoud Borzala, pour une nouvelle formule suite à leur sortie en kiosque de leur fameux mensuel Causeur. Bonsoir Daoud.
Bonsoir.
Et nous verrons avec vous votre analyse sur le bilan du président du Venezuela, Hugo Chavez. Nous retrouverons bien sûr Philippe en fin d'émission pour l'actualité européenne. Mais pour notre première partie, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Kempf pour son livre « Introduction à la cyberstratégie » aux éditions Economica. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce nouveau mot est arrivé dans les années 90, mais qui est surtout devenu une réalité dans les années 2000. Est-on réellement rentré dans une nouvelle forme de guerre ou est-ce un effet de mode, comme certains le pensent? Olivier Kempf, pour vous, la cyberstratégie est une partie propre au cyberespace. Donc, on va peut-être commencer par le début. C'est quoi le cyberespace?
Le cyberespace, c'est bien évidemment de l'informatique. C'est de l'informatique en réseau qui marque effectivement en différence entre le début des années 2000 et puis ce qu'on avait avant, puisque l'informatique n'était pas en réseau. Mais c'est pas seulement une histoire technique, c'est aussi l'information qui circule et c'est donc comprendre que la donnée n'est pas neutre, que la donnée a du sens. Et le cyberespace, c'est tout ça, c'est-à-dire c'est à la fois des appareils, donc avec quelque chose de très matériel. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le mot virtuel, qui me semble très, très, très maladroit pour parler du cyberespace. C'est bien évidemment du logiciel avec tous les programmes de toutes sortes, aussi bien ceux dans nos machines, ce qu'on appelle les logiciels, et puis l'espèce de code de la route qui régit justement les dix réseaux, c'est-à-dire y a des protocoles, on voit bien qu'un réseau de chemin de fer a des aiguillages et puis des aiguilleurs sur le réseau, il y a des aiguillages, il n'y a pas d'aiguilleurs et quelque part il y a des codes qui font que les paquets voyagent tout seuls. Et puis les paquets transforment de l'information et ça fait aussi partie de ce cyberespace, cette couche sémantique et l'ensemble est l'objet de calculs stratégiques.
Alors quand on parle de cyberespace et donc de cyberstratégie, on a souvent une définition d'un espace sans frontières. Alors vous démontrez que c'est un peu une vue de l'esprit, que les frontières elles existent bien et que même les États ont une tendance à essayer de les renforcer. C'est pas aussi libre que ça.
Voilà, ça c'est le premier paradoxe du cyberespace, c'est de croire que c'est un espace sans frontières. C'est un espace universel, oui. C'est un espace où malgré tout des frontières sont en train de s'installer, même si ce sont des frontières poreuses. Et là, c'est aussi ce que nous apprend le cyberespace, c'est que la frontière, j'allais dire westphalienne, très linéaire, très droite, très 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 matérialisée, cette frontière-là, de toute façon, a toujours été poreuse. Elle est de plus en plus poreuse, y compris pour nos frontières de tous les jours. Et donc, elle est poreuse également sur le cyberespace. Cela étant, dire qu'il y a des frontières poreuses ne signifie pas qu'il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que, effectivement, les États, et notamment les États les plus puissants, cherchent à contrôler l'ensemble de leur territoire et de leur souveraineté sur le cyberespace, aussi bien un peu par des moyens physiques, c'est-à-dire le contrôle des routeurs et des câbles, surtout par des moyens logiciels, c'est-à-dire que si vous mettez en œuvre des logiciels, que ça soit des logiciels, les logiciels dont nous servons tous les jours, Google ou Microsoft, ou des antivirus qui eux sont pas forcément américains, je pense à Kaspersky qui est russe, voilà des exemples de logiciels qui traduisent malgré tout des nationalités et donc d'une certaine façon des souverainetés. Puis après vous avez la couche sémantique, il y a plus d'internautes en Chine qu'aux États-Unis, il y a plus de 400 millions d'internautes en Chine et les 70 premiers sites, le seul endroit au monde où les 98% des premiers sites consultés sont pas américains, c'est en Chine. 70% des sites chinois, des premiers sites chinois sont en chinois. Et donc là vous avez un espace culturel qui est homogène et qui traduit une certaine souveraineté.
Dès que le cyberespace a été formé sur Internet, est-ce que la cyberstratégie est arrivée tout de suite, quoi? C'est quelque chose qui a été Non, c'est
alors oui et non. Le premier texte américain date de 93, Cyber War is Coming. Cela étant, l'émergence d'une vraie cyberstratégie arrive clairement au milieu des années 2000, à partir de 2005-2006. Surtout, tout le monde en prend conscience en 2007 avec l'attaque contre l'Estonie, qu'on a attribuée à la Russie. Ce sont probablement des hackers russes, mais là, tout le monde en prend conscience parce que c'est un État occidental et on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui gèle. On prend conscience d'une part de notre dépendance au cyberespace, qui est la grande nouveauté, et d'autre part qu'il peut y avoir des intentions hostiles qui peuvent se manifester. Et donc depuis 2008, on voit clairement que tous les pays, en tout état de cause, tous les grands pays développent des stratégies, il faut les mettre au pluriel, dans le cyberespace.
Alors, chose assez curieuse dans le cyberespace, c'est qu'on retrouve des notions qui sont bien connues en stratégie, c'est le sédentaire et le nomade. Alors ça, j'aimerais bien que vous expliquiez ça.
Alors, c'est bien que vous... je suis content, parce qu'on me pose rarement cette question-là. Et
c'est quelque chose, on a souvent parlé de ça en stratégie avec nos invités, et là, je retrouve ces termes qui sont assez intéressants. Quoi,
je vous remercie. Parlons d'abord de nomadisme. Est-ce que le cyber est mobile? On en a tous l'illusion, puisqu'on a tous notre téléphone portable qui est devenu un smartphone, donc un ordiphone, donc autre chose qu'un simple téléphone, puisque ça sert de connexion Internet, d'iPad, donc de lecteur de musique, de lecteur de vidéo, enfin tout un tas de choses. Bon, bref. Et donc, on a l'illusion que cet objet nous rend extrêmement libre, extrêmement mobile, extrêmement léger. Alors d'abord, il faut comprendre que le cyberespace est encore plus large que ça, puisque votre carte bleue, qui a une petite puce, appartient elle aussi au cyberespace. Mais il faut aussi voir que derrière cette mobilité, c'est pas seulement l'objet que je transporte, c'est aussi l'infrastructure qui m'environne. Et que ma carte bleue, elle est utile parce que j'ai des distributeurs de guillets de banque qui sont donc très, très concrets, très déployés sur le territoire. Et puis qu'il y a tout un tas de machines chez tous les commerçants dans lesquels je vais glisser ma carte bleue et composer le code. Même chose pour le téléphone, il ne marche que si j'ai des relais, etc. etc. Donc, il y a effectivement une nomadisation, une sorte de nomadisation qui va appuyer ce que je disais sur les frontières. On parlait des frontières westphaliennes, fixes, souveraines, territoriales, qui sont celles d'un monde, j'allais dire, ancien, qui est celui d'une longue émergence vers des États souverains et territorialisés. Et là, on voit quelque chose qui est en train de bouger. Et élargissons le réseau. Nous avions quelque chose d'extrêmement sédentaire et le cyberespace, justement, nous fait prendre la revanche des nomades sur les sédentaires, la vieille revanche du néolithique, allons jusque-là, de l'anthropologie en tout cas, et peut-être qu'il y a un changement d'époque et qui va modifier en tout état de cause des calculs stratégiques.
Alors, autre idée reçue, c'est ce qui est formidable dans votre livre, parce qu'on fantasme beaucoup pas sur votre livre, mais sur le cyberespace, c'est que c'est pas une immense toile qui s'étend quasiment à l'infini. Vous parlez aussi d'une sorte de millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a des épaisseurs dans le cyberespace.
Alors ça, c'est une intuition et que j'ai du mal à formaliser. J'ai essayé de la décrire dans le livre. C'est-à-dire que on a tous l'impression d'une toile et donc d'un filet à provisions. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne savent plus ce que c'est qu'un filet à provisions, parlons d'un filet de ballon de football. Ouais. Voilà. Donc, on a l'impression de quelque chose qui a une simple couche finalement très très fine. Or, regardez justement tous les objets de cyber qui nous environnent et maintenant ils sont partout. Je veux dire, le cyber régule les feux rouges et donc notre circulation. Le cyber régule la sécurité sociale. Le cyber régule nos entreprises et nos administrations. Le cyber est partout. Et ce que je veux dire en disant qu'il a une épaisseur, c'est que l'entassement justement de régulation par le cyberespace et par les objets cyber fait qu'il a probablement une certaine épaisseur, ce que j'appelle une épaisseur, mais c'est maladroit, mais c'est une image, pour essayer de bien faire comprendre que un filet, ça se déchire. On coupe un brin et ça va se casser. À partir du moment où on dit que le cyber est quelque part partout, on peut espérer qu'il a ce qu'on appelle une sorte de résilience, c'est-à-dire une capacité à encaisser les chocs que l'on n'avait pas prévu au départ, mais qui est là et que l'on constate. C'est ce que j'essaye de suggérer par cette notion d'épaisseur du cyberespace, pour dire que cette couche qui nous environne, qui est une sphère au sens premier, hein, le cyberespace est d'abord une cybersphère au-dessus de la biosphère, etc., etc. Cette sphère a une épaisseur.
Alors, on va peut-être aborder un exemple concret. En tout cas, c'est l'un des plus célèbres. C'est la fameuse attaque du programme nucléaire iranien, le fameux ver informatique Stuxnet. On considère que c'est une des premières cyberattaques contre une cible industrielle et contre un pays. Est-ce que ça a vraiment été la première fois? Vous parliez tout à l'heure des Russes. Mais là, c'est un cas concret où on a affaire à une... et alors, c'est étonnant, vous donnez quand même les chiffres, ça a été programmé en 2006.
Voilà, décision est prise. C'est ça qui est... Alors, oui, c'est à la différence de ce qui s'est passé en Estonie en 2007, où on utilise finalement des outils très basiques de déni de service, donc de surcharge des serveurs par des requêtes nombreuses. En clair, c'est le nombre qui fait qui fait l'attaque. Dans le cas de Stuxnet, on va construire une arme, une cyberarme qui est particulièrement conçue, construite en fonction de la cible que l'on veut avoir. Et donc, c'est une arme d'extrêmement haute technologie. Voilà. Et donc, celle-là n'a pu être construite que par des équipes extrêmement sophistiquées. Et en clair, et on le sait maintenant, puisque les États-Unis l'ont fait savoir, et les Israéliens aussi, par une double équipe, à la fois israélienne et américaine, parce qu'il s'agit, quelque part, de gagner du temps contre des forces, c'est-à-dire soit on attaque directement l'Iran avec des forces, mais ça personne n'en a envie, soit on décale le programme nucléaire iranien pour gagner du temps et donc de l'espace de négociation et reculer dans le temps, etc. etc. Donc voilà, très élaboré, d'origine étatique, clairement signifié, quelque chose de très long qui va rebours, là encore, d'un autre paradoxe. On pense que le cyber, c'est celui de l'instantanéité. C'est décidé en 2006, implanté en 2009, révélé en 2010, et, dans la dimension rhétorique qui appartient à la stratégie, avoué quelque part deux ans plus tard. Donc, ouais. L'ensemble de la séquence dure 6 ans, alors qu'on pense qu'on est à la vitesse de l'électron.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie, on reçoit Olivier Kampf pour son livre « Introduction à la cyberstratégie ». Alors, le problème de cette attaque, c'est qu'elle a attaqué aussi d'autres cibles que les ordinateurs iraniens. C'est peut-être le danger de ce genre de cyberarmes, c'est que, est-ce qu'on peut la contrôler après?
Vous posez une excellente question qui renvoie d'ailleurs, c'est un des rares points de comparaison entre le cyber et l'arme nucléaire. C'est que on contrôle mal les suites. Dans le cas de Stuxnet, comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est que d'abord il y a eu une faille humaine pour rentrer le virus dans la centrale nucléaire qui était totalement coupée d'Internet, mais il y a eu aussi une faille humaine pour la sortir, c'est-à-dire qu'un ingénieur a sorti. Il a fait une faute de sécurité, il a mis ça sur son ordinateur, qu'il a connecté sur Internet, et la chose s'est répandue. Et là, on a vu énormément, juste une sorte de prolifération technologique. Parce que tout un tas de hackers, donc de bidouilleurs, ont pris Stuxnet, qui était effectivement élaboré, et puis ils ont bidouillé dessus pour rajouter des élaborations, etc. Et donc on a un phénomène de prolifération technique. Au moment de la guerre en Libye, il a été dit que les Américains ont refusé de lancer des armes cyber contre le régime de Kadhafi parce qu'ils n'avaient pas l'assurance de maîtriser justement ce qui allait avoir après. Et donc ils ont dit, on réussit dans les méthodes traditionnelles à lui faire suffisamment de mal, on n'a pas besoin de rajouter cette affaire cyber. Mais effectivement, il y a ce danger. Et c'est celui de l'utilisation offensive du cyber, jusqu'où on peut aller, et la notion de virus est bonne. Une arme biologique, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle ne peut pas revenir vers moi.
Mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à ça. Et vous faites remarquer effectivement qu'une attaque cyber demande énormément de préparation et un gros travail de renseignement. Hein, je pensais pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement qui on attaque, où ouais. et qu'est-ce qu'il a comme système. Donc c'est quasiment le contraire d'une guerre éclair, ce qui veut dire qu'il faut être sûr de son adversaire. Parce que quand on voit les temps de préparation de 2006 et l'attaque qui arrive en 2009, on n'est plus dans l'instant immédiat. Célia.
Alors là, on parle des attaques cyber de très haute technologie. Cela étant, et revenons au cas estonien, on peut avoir des attaques en masse. Ouais. Mais une attaque en masse, elle va vous déranger pendant une journée, deux journées, et puis après, ça revient à un truc. Tandis que la centrale nucléaire de Natanz, elle a été hors zone pendant, enfin hors fonctionnement pendant un an. On a gagné un an et demi. Enfin, les Américains ont gagné un an et demi. Oui, c'est la question du temps, et c'est là aussi, c'est la question que c'est la différence entre la cyberstratégie et la stratégie nucléaire. La stratégie nucléaire, une bombe nucléaire, vous savez qui la lance, vous savez qui la reçoit, et puis tout le monde voit assez bien les effets. Dans le cas du cyber, vous êtes obligé de fabriquer l'arme en fonction de la cible. Vous n'avez pas de cyberarme, du moins les grandes cyber, les armes à grande technologie, de cyberarme universelle. Et donc, ça nécessite de désigner suffisamment longtemps en amont, en avance, l'adversaire, et donc la cible sur laquelle on va lancer notre attaque. Et donc, ça change de calcul stratégique, bien évidemment.
Vous dites qu'il y a une différence entre la cyberdéfense et la cybersécurité, mais c'est un peu flou comme...
Oui, c'est flou, et vous avez raison, et les experts, on en débat beaucoup entre nous. La cybersécurité a trois origines. C'est à la fois la cybersécurité du citoyen, c'est-à-dire le policier qui va lutter contre la cybercriminalité. Honnêtement, ça rentre pas réellement dans le champ de la cyberstratégie. Ensuite, vous avez quelque chose qui est lié à la guerre économique. C'est-à-dire qu'entre cybersécurité et sécurité des entreprises par rapport aux attaques de guerre économique qui vont souvent utiliser le cyberespace, vous avez une notion de cybersécurité. Puis enfin, vous avez la dernière chose qui est ce qu'on appelle la sécurité des systèmes d'information, qui là est plus le fait des spécialistes d'informatique et qui vont développer des antivirus, des procédures d'hygiène, des firewalls, enfin tout un tas de procédures, etc. Donc ça, c'est l'ensemble de la cybersécurité. Puis au-dessus, vous avez une partie haute, qui appartient malgré tout aux États, que je désigne par cyberdéfense, et qui est aussi bien la défense des activités vitales de la nation, donc on peut penser aux administrations et puis éventuellement à un certain nombre d'opérateurs d'importance vitale, les EIV, comme dit la législation française, et puis tout particulièrement le ministère de la Défense, qu'on devine absolument essentiel pour la garantie de la souveraineté du pays.
Vous parlez du... Pour qu'une offensive cyberstratégique soit efficace, elle doit être discrète et décisive. Est-ce que les fantasmes qu'on a pu avoir sur le hacker individuel, je pense à ce vieux film américain War Games, du gamin qui arrive à rentrer dans un système nucléaire américain, c'est un fantasme total aujourd'hui, maintenant c'est fini?
Voilà, c'est fini, vous avez tout dit, ça a pu avoir une certaine efficacité dans les années 80, ça marche encore dans tous les systèmes de science-fiction, même dans tous les polars. Le dernier James Bond est assez amusant parce que vous avez quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui est au courant de trois organismes de gestion assez centraux de la ville de Londres. Et quand vous discutez avec les ingénieurs, moi je parle de ceux de Paris, hein, je connais pas ceux de Londres, ils me disent déjà nous on a du mal à comprendre exactement comment fonctionne notre simple système, et donc imaginez que quelqu'un à l'autre bout du monde, tout seul, sans avoir accès et sans avoir l'ensemble des équipes, serait capable de tout faire. Il est capable de découvrir une faille, mais être capable d'avoir l'élaboration, l'entassement de failles et la chaîne logique pour arriver à les exploits de James Bond, c'est du cinéma. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, quand on arrive dans de la haute technologie, il faut des moyens. Cela étant, les hackers l'ont bien compris, et les hackers se mettent en groupe. Et vous avez un marché des failles de sécurité, et vous avez des phénomènes de groupe. Et donc, alors, ce qui change, c'est qu'un certain nombre d'États ou d'acteurs hostiles vont utiliser ce qu'on appelle la guerre de course, la bonne vieille des corsaires d'autrefois au XVIIe siècle, où on prenait des acteurs privés qui allaient porter les intérêts de l'État, mais avec une privatisation du profit, mais malgré tout, il portait le pavillon national. Quelque part, c'est un peu ce modèle-là qui est celui des hackers et qui est utilisé probablement par les Russes et par les Chinois, au moins eux, de façon à peu près ouverte, mais qui nous dit que les autres ne le font pas.
Justement, vous parlez aussi de la cyberdissuasion. Mais est-il possible d'avoir une dissuasion dans un espace où il n'y a pas une arme ultime dans la cyberstratégie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le virus qui pourrait... et en plus, on ne connaît même pas forcément l'origine de l'attaque. Est-ce que la cyberdissuasion, c'est pas en fait un fantasme?
Alors, en tout état de cause, ça a été énormément discuté depuis 3-4 ans. Parce que... Et pourquoi? Parce que les stratégistes ont pris le vocabulaire stratégique précédent, qui était celui de l'arme nucléaire et donc de la dissuasion. Et donc, ils ont pris cette grande innovation stratégique, pas la fonction de dissuader, mais la fonction de dissuasion nucléaire, ils ont essayé de l'appliquer. On s'aperçoit, et vous avez tout à fait raison, que comme il n'y a pas réellement d'armes ultimes, d'une part, que d'autre part, malgré les apparences, le cyberespace est un espace discret, et donc on ne peut pas attribuer une attaque. Et donc, si on ne peut pas attribuer une attaque, on ne peut pas riposter à coup sûr, parce qu'on n'est pas sûr que ça soit le bon agresseur, et puis on n'est pas sûr de l'efficacité à 100% de son arme. Alors, les Américains ont développé toute une rhétorique, et qui est d'ailleurs une rhétorique, et qui appartient à la stratégie, mais le seul problème, c'est qu'un silo nucléaire, vous pouvez aller le contrôler, vous pouvez envoyer un avion, une équipe d'inspecteurs, etc., aller voir, il est armé, il n'est pas armé, la charge est active, elle n'est pas active. Un logiciel, un laboratoire qu'on fait dans trois laboratoires où vous avez 10 ordinateurs, comment allez-vous vérifier que les gens ont ou ne disposent pas de l'arme? Voilà le grand point par rapport à cyberdiffusion.
Alors on va peut-être faire un peu le tour de l'horizon. Aujourd'hui, en 2013, est-ce que les États-Unis sont toujours les chefs de file dans ce domaine? C'est où ils sont toujours...
Clairement, ils ont à la fois une antériorité, ils ont à la fois une très très grosse base industrielle et technologique de ce que j'appelle cyberdéfense, donc BITCD. Ils ont mobilisé peut-être un tout petit peu trop leur appareil de défense et surtout l'ensemble de leur lobby, et surtout ils ont un gros soft power, c'est-à-dire une grande capacité de rhétorique, de discours stratégique qui dit grand 1, c'est la nouvelle menace, c'est le lieu de la prochaine guerre, et donc on ne cesse de nous parler de cyber Pearl Harbor, etc., avec un discours catastrophiste, probablement un peu trop radical, extrémiste, d'une part, et puis d'autre part, ils fabriquent un ennemi chinois. Je ne suis pas en train de dire que les Chinois sont des enfants de cœur. Cela étant, on voit chez les Américains la reproduction, de la même façon qu'ils ont essayé de reproduire la rhétorique nucléaire dans le cadre du cyberespace, ils reproduisent d'une certaine façon la mécanique de la guerre froide et donc d'un système bipolaire et donc le système de l'ennemi, le challenger, l'URSS, avec le modèle chinois qui serait le cyber-ennemi principal, qui leur permet d'ailleurs de mobiliser leurs troupes. Cela étant, ils sont là, ils sont clairement là, ils ont une puissance incontestable et il serait absurde de le nier. À côté, parce que j'imagine que ça va être votre première
réponse,
qui d'autre?
Alors vous dites que les Chinois ont un peu remplacé les Russes. Au départ, les Russes, c'était un peu on les considérait comme les hackers. C'était premiers qui ont...
C'est ça qui est amusant. Souvenez-vous, en 2007-2008, attaque contre l'Estonie, guerre contre la Géorgie, il y a 5 ans, le grand cyberméchant, c'était les Russes. Aujourd'hui, non. Plus personne, c'est pas vrai, mais on les prend beaucoup moins au sérieux. Pourquoi? Parce que on observe la montée en puissance chinoise, qui est d'abord celle d'une intégration économique avec une vraie base industrielle et technologique et logicielle, d'une part, avec cette homogénéisation que je décrivais tout à l'heure, et ça fait peur. Alors cela étant, dans les typologies d'action, l'agression chinoise, c'est d'abord une agression d'espionnage, c'est pas une agression de sabotage. Voilà, je veux dire, les cyberoffensives, elles sont de trois types. Espionnage, sabotage, subversion. Les Chinois, pour l'instant, font de l'espionnage. Ils en font beaucoup. Mais alors, beaucoup. Ça, il faut pas se tromper, ils pillent allègrement tout le monde, etc. Mais ils sont pas dans « je vais casser » comme justement le méchant dans James Bond. Et c'est pas ce que racontent les Américains. Donc, les Chinois, oui, sont puissants, cela étant, ne nous leurrons pas, ils sont pas forcément aussi puissants qu'on peut le craindre. Et puis après, quels sont les autres acteurs de la première division? Il y a encore les Russes, ne nous y trompons pas, faut pas les sous-estimer, ils ont une longue tradition, ils ont...
Là, oui, il y a une tradition d'ingénieurs, même en programme, etc.
Il y a une tradition d'ingénieurs. La cybernétique, il faut savoir, l'arme cybernétique a été initiée dans les années 60 à cause, j'allais dire, de l'école mathématique russe qui a beaucoup inquiété la CIA, et c'est d'ailleurs à cause des développements russes au début des années 60 que la CIA a développé le système DARPA et donc ce qui est la source de notre Internet aujourd'hui. Ce qu'on a totalement oublié. Bon, voilà. Mais ça, ce sont des anecdotes. Donc les Russes sont encore là. Chez les Européens, vous avez les trois gros, avec des modalités différentes et des priorités un peu différentes que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Vous avez probablement l'Inde, le Japon, Israël. Voilà. Voilà, on a fait le tour de la première division. Après, vous avez certains qui sont pas loin derrière, mais quand même derrière.
Dans la cyberstratégie, ouais, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la guerre, aux grandes fonctions de l'État, etc. Mais est-ce que le point faible, c'est pas les grandes entreprises? Parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes entreprises. Je disais, il y a pas si longtemps, pour des raisons d'économie, mettaient leur réseau sur Internet directement, sans le contrôler. Et est-ce que les attaques ne pourraient pas venir là-dessus? C'est l'histoire un peu idiote de on va mettre en l'air les feux rouges de Los Angeles, par exemple.
Là. Vous avez raison. Et c'est effectivement une des grandes inquiétudes, c'est-à-dire que je vais parler du cas français que je connais un peu mieux, allez savoir pourquoi. Le dispositif étatique et le dispositif défense qui s'est mis en place est convenable. Il y a bien évidemment encore des choses à faire, des efforts à produire, etc. En revanche, la vraie difficulté, c'est quelle coopération entre justement cette puissance publique, parlons de puissance publique au sens large, et puis les grandes et moyennes entreprises à qui on expliquait pendant 20 ans qu'elles n'avaient pas de nationalité, qu'elles étaient dans une compétition mondialisée, etc., qui s'aperçoivent que, guerre économique aidant, finalement, elles ont malgré tout une nationalité et que, quelque part, il faut malgré tout avoir une sorte de cohérence et de conjonction avec la puissance publique. Alors, c'est assez malaisé en France parce que l'État a une telle tradition que les entreprises... quelque part, on cherchait à s'en éloigner. Ça a été le discours économique dominant depuis 25 ans. Et là, on voit bien que même s'il faut bien évidemment de la concurrence et des règles du jeu économique, il faut aussi autre chose. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine du cyber. Vous avez raison. Elles ont conscience qu'il y a des difficultés. Et très souvent, les chefs d'entreprise... Je pense que le cyber est une affaire qui n'est pas stratégique, mais qui appartient aux spécialistes, c'est-à-dire aux directeurs informatiques. Or, moi, je suis pas un informaticien. Si je vous parle de stratégie, quelque part, c'est parce que je ne suis pas informaticien et que donc, du coup, on comprend. J'ai presque envie de dire, parce que souvent, les informaticiens, au bout de deux minutes, souvent, pas tous. Hein, je fais
non, mais dans les sociétés,
pas.
Dans les sociétés,
pas.
Je pense qu'ils le font un peu exprès dans les sociétés.
Peut-être qu'il y a un effet de pouvoir, etc. Mais résultat des courses, vous avez tout un tas de dirigeants et de stratèges qui disent. C'est une faille technique et donc ça n'appelle que des réponses techniques. Or, et ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut répéter, cette dimension cyberstratégique est au cœur de la stratégie d'entreprise. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que j'explique dans mes articles et mes prochains écrits, l'information est devenue le nouveau facteur de production essentiel de l'entreprise. C'est plus seulement le capital et le travail, comme on le disait traditionnellement, maintenant c'est l'information. Or, comment est-ce que je la manipule? Comment est-ce que je la crée? Comment est-ce que je l'acquiert? Comment est-ce que je la protège? Ça, ce sont des questions cyber. Et là, on est au tout début de la découverte de cette cyberstratégie d'entreprise-là.
Surtout qu'il y a peut-être aussi un problème de coût, parce que le prix d'un virus, alors peut-être c'est peut-être un peu de temps, comme vous l'expliquez, pour beaucoup d'ingénieurs, mais ça coûtera toujours moins cher à fabriquer qu'une cyberdéfense dans une
D'autant plus que nous achetons tous et nous utilisons tous des produits qui n'ont jamais été fiabilisés en termes de sécurité, avec des éditeurs de logiciels qui mettent en vente des produits non finalisés et qui attendent que les consommateurs les testent pour leur signaler les défauts et pour envoyer des patchs. Parce que le système économique est fait de telle façon que nous avons négligé la sécurité au motif de mieux en avoir tout de suite beaucoup pas cher et tant pis pour la sécurité. Et un des grands enjeux, c'est ça. Ça va être d'inverser cette logique, j'allais dire, industrielle, là.
Le fantasme du cyberterrorisme, c'est un fantasme ou vraiment...
Oui, parce qu'on ne l'a jamais constaté. La littérature en a beaucoup parlé. Et pourquoi elle en a beaucoup parlé? Parce que les terroristes ont omnubilé un certain nombre de stratégistes au cours des années 2000. On a vu arriver le cyber à ce moment-là. On a fait essayer de faire la jonction des deux. On ne l'observe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les terroristes n'utilisent pas le cyber, ne nous l'auront pas. Pourquoi ? Parce que le cyber est un espace opaque, discret et en réseau. Et quand vous êtes terroriste ou activiste de quoi que ce soit, vous êtes opaque, discret et en réseau. Donc ça tombe bien. Je veux dire, vous allez vous entendre. Ouais. Mais vous allez utiliser, mais pas forcément fabriquer des armes. Pourquoi ? À cause de la complexité des attaques à laquelle je faisais allusion tout à l'heure.
Aujourd'hui, on a bien vu les dangers dans le cyberespace. Ils sont parfois complètement inconnus et pas forcément contrôlables. N'irait-on pas vers une sorte d'interdiction planétaire, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, les armes bactériologiques? Je crois que les Russes avaient commencé à vouloir faire des réunions internationales sur ce sujet-là.
Oui, alors l'idée consiste à dire voici un problème mondial. On va faire simple, hein, comme l'écologie. Et donc, on va avoir une régulation mondiale et donc on va avoir un traité mondial, un traité international, qui va vous faire la gouvernance. Et on s'aperçoit que ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas? D'abord parce que certains acteurs ont actuellement des positions dominantes qui leur conviennent très bien et disons les choses simplement, les États-Unis et à leur suite l'ensemble des Occidentaux. Et les challengers que sont les Russes et les Chinois veulent justement de la régulation parce qu'avec la régulation, ils espèrent avoir justement plus de contrôle et donc indirectement plus de pouvoir. Ceci explique un rapport de force géopolitique, j'allais dire assez classique. L'autre problème, c'est celui des traités de contrôle des armements. Dans l'ensemble des armements classiques et nucléaires, ils ont été durs, compliqués et lents à se mettre en place, alors qu'il ne s'agissait que d'objets tangibles. Comment faire un contrôle des armements, sachant qu'on aura énormément de difficultés à contrôler les armements? Donc, outre la notion de traité, la notion de traiter des armements dans le champ du cyber, la question du contrôle des armements cyber est extrêmement compliquée, fait que je suis quant à moi assez, je ne vais pas dire sceptique, mais je suis pas forcément très optimiste quant à la possibilité à court terme d'arriver à une régulation internationale.
Depuis Stuxnet.
Stuxnet, très bien.
Est-ce qu'on a vu d'autres projets se mettre en place ou des débuts de...
Alors, il y a eu pas mal de virus, y compris des gradations ou des variations de Stuxnet, Flame Ghost, etc. Il y a quelque chose qui a été assez intéressant qui a eu lieu à l'automne dernier. On n'en a absolument pas parlé, sauf chez les spécialistes en Occident. Ça a été Shamoon, qui a été un virus visiblement lancé par des Perses, des Iraniens, des Chiites, contre Aramco. Aramco, qu'est-ce que c'est? C'est la société de production pétrolière d'Arabie Saoudite. Rien que ça fait que 9,1 milliards de barils par jour. Enfin, juste oui. Un petit truc. Et donc ils ont envoyé Shamoon, qui était à la fois un virus plus des attaques massives, etc., etc. Résultat des courses, ils ont, semble-t-il, mis à plat Aramco pendant au moins un mois, peut-être un peu plus, et Aramco a fonctionné pendant tout ce temps-là à coup de fax et de téléphone. Imaginez une grande entreprise, imaginez Total fonctionnant à coup de fax et de téléphone et sans ordinateur pendant un mois. Je peux vous dire que les Saoudiens n'étaient pas très très contents, d'abord contre les agresseurs, ça on s'en doute, mais aussi envers ceux qui leur avaient vendu toutes les procédures de sécurité garanties 100% secure.
Bah écoutez, très bien. Merci beaucoup Olivier Kampf pour votre participation. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie votre livre Introduction à la cyberstratégie, et je peux vous dire que j'ai tout compris, donc les auditeurs pourront le comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet facile. Il n'y a pas grand chose encore sur ce sujet-là. Vous êtes quasiment l'un des seuls à avoir commencé à Internet. On trouve beaucoup de fantasmes sur le sujet, mais
voilà, je alors soit enfin si ça commence à commencer.
Ou alors des grands reportages, j'ai vu un reportage sur Arte qui est carrément apocalyptique sur
voilà,
le sujet.
Alors soit vous avez de la caricature, soit vous avez du paratechnicien qui va vous expliquer Internet et c'est très bien. Et puis avec tous les dangers des virus, ne nous méprenons pas, mais c'était l'ambition de ce livre, que ça soit réellement une introduction et donc compréhensible par tout le monde.
Il y aura une suite ?
Oh oui. Oui, j'ai plein de livres à écrire. Aussi bien sur l'aspect stratégique et géopolitique que sur l'aspect entreprise. Il faut que j'en écrive deux. Il faut juste que je trouve le temps de les écrire.
Parfait. Donc je rappelle, Introduction à la cyberstratégie, c'est collection cyberstratégie aux éditions Economica. On va faire juste une légère pause et puis on va parler tout à l'heure de causeurs, de beaucoup de choses et puis de l'actualité européenne avec Philippe Restel. Retour dans les chroniques de la vieille Europe avec le plaisir de recevoir, alors vous êtes bien sûr toujours sur Radio Courtoisie, je suis toujours avec Philippe Christel et nous recevons dans cette deuxième partie Daoud Borzala, rédacteur en chef adjoint du célèbre mensuel Causeur, qui a une nouvelle formule Daoud et une formule qui sort cette fois-ci en kiosque. C'est le numéro 1 là.
Bonsoir, oui, en fait c'est un redémarrage puisqu'on existe depuis 5 ans à peu près et qu'on sort donc jeudi 4 avril en kiosque avec une nouvelle formule de 84 pages et une maquette qui correspond aux standards du kiosque et de la grande distribution. Et voilà, avec une très large diffusion puisqu'on sera nos 10 000 points de vente à 42 000 exemplaires pour la première diffusion. Et là, vraiment, on sort d'un cercle confidentiel puisqu'on était quand même confinés à notre petite boutique en ligne. Il faut dire que la masse de nos lecteurs ne sont pas toujours technophiles, donc ne sont pas forcément aguerris aux secrets cyberespace, notamment de l'Internet. Et donc là, on a mis les petits plats dans les grands pour ce premier numéro en kiosque, avec notamment tout un dossier autour du nouveau désordre moral et puis des signatures très variées comme Philippe Bilger, Marcel Gaucher, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, et même Laurent Geoffrin qui nous a fait l'amitié d'un papier.
Ouais, alors ça, je trouvais ça incroyable. Enfin bon, pour un point numéro 1. Alors, on ne va pas parler que de ça, mais vous avez fait un papier, moi, qui m'a énormément intéressé, sur le bilan. Le bilan, il faudrait un livre entier, mais enfin, vous avez eu quelques sources très intéressantes du défunt président Chavez. Et j'avoue que le ton change un peu de ce qu'on a pu lire dans la presse et les politiques qui nous racontent en bien ou en mal. Alors vous expliquez clairement que Chavez, c'est pas le chaînon manquant entre Perón et Guevara, ça c'est un peu la légende, quoi. On a fait une sorte de mélange de Gloubi-Boulga et puis on a sorti Chavez.
Mais en fait c'est pas entièrement une légende, c'est-à-dire que l'expression chaînon manquant entre Guevara et Perón, c'est une expression d'Alexandre Adler.
Mais oui, c'est une légende alors.
Non, mais disons qu'il y a évidemment il y a des arrière-pensées néoconservatrices derrière ce discours, mais en tout cas au niveau du discours, ça dit beaucoup de choses sur l'origine et la trajectoire idéologique de quelqu'un comme Chavez, qui ne correspond pas vraiment aux standards idéologiques de ses idoles du Front de Gauche, des laïcs républicains à la Mélenchon. Mais il est vrai que pour cet article, j'avais vraiment envie de sortir des sentiers battus, des discours convenus en bien ou en mal sur Chavez, et de sortir de la morale pour faire de la politique, et donc suivre en fait le conseil qu'avait donné l'ancien ambassadeur américain au Venezuela, c'est-à-dire ne jugez pas Chavez sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. Et là, quand on s'attaque aux faits, on voit bien que derrière les grands discours socialistes, altermondialistes, anticapitalistes, tout ce que vous voulez, il y a des réalités beaucoup plus nuancées, un bilan social beaucoup plus nuancé, une insertion de la mondialisation qui est réelle, et ça pose des questions au-delà même de Chavez sur quel modèle de développement alternatif aujourd'hui au capitalisme mondialisé extraverti tel qu'on veut nous le vendre, et même sur les possibles alternatives, notamment en Amérique du Sud, qu'on veut bien promouvoir. Donc voilà.
Parce que l'un des alors en vous lisant, c'est l'un des premiers mythes, c'est la nationalisation de l'exploitation du pétrole. En réalité, elle date de 1975, elle date pas de Chavez.
Ah oui, c'est un mythe qui est largement propagé d'ailleurs par les amis français du Front de Gauche de Chavez, puisque en fait, dans un excellent livre qui m'a servi vraiment à construire cet article et à trouver nombre de références, qui est un livre d'un anarchiste vénézuélien, Rafael Uzcategui.
Oui, qui n'est pas un agent de la CIA,
ni des
Américains.
Voilà. Qui est une sorte de situationniste, altermondialiste vénézuélien proche des thèses d'Arte Negri, qui croyait d'ailleurs en l'aventure bolivarienne au départ, et puis qui ensuite s'est aperçu que les travailleurs vénézuéliens étaient largement leurrés par les perspectives que leur ouvrait Chavez. Eh bien, grâce à cet auteur, on s'aperçoit que le travailleur vénézuélien est lui aussi soumis au dumping social, peut-être encore plus que le travailleur français, puisque lui, il a un État assez fort qui le contraint, qui peut lui faire peser des législations sociales très contraignantes, très brutales, qui peut l'interdire de se syndiquer, qui embauche, par exemple, des fonctionnaires systématiquement en CDD, puisque lorsque vous embauchez un fonctionnaire en CDD, c'est d'autant plus facile de lui mettre la pression pour qu'il participe aux grandes parades du parti bolivarien et pour qu'il, en gros, pour qu'il, voilà, qu'il suive vos préceptes politiques.
Et une partie du pétrole, en fait, appartient à des sociétés où les Américains sont en pignon sur rue, quoi.
Alors oui, justement, pour revenir à votre question précédente, en fait, très concrètement, en 2007, il y a eu un référendum sur la Constitution et Chavez a obtenu un plébiscite. Et l'une des clauses de ce référendum, c'était la formation d'entreprises mixtes pour l'exploitation du pétrole. Donc il faut savoir que le pétrole, l'exploitation du pétrole a été nationalisée en 1975 au Venezuela, puisqu'il y a une longue tradition de l'État social que Chavez a repris de manière partielle. Et Chavez, pour s'ouvrir à la mondialisation et en gros faire du business, exploiter son pétrole qui est assez lourd, voire très lourd pour certains de ses gisements, donc qui doit bénéficier également des infrastructures étrangères, y compris pour être affiné aux États-Unis. Et donc, il a obtenu en quelque sorte un deal, c'est que il y a des entreprises mixtes qui se forment, d'associations entre l'État Venezuela et des multinationales comme Exxon ou BP, avec 40% de part et d'autre. C'est-à-dire que vous avez 40% des revenus de l'extraction pétrolière qui vont revenir aux capitaux privés de cette entreprise mixte. Et en contrepartie, cette entreprise mixte va payer une sorte de tribut à l'État. Et donc là, pour solde de tout compte, des multinationales comme BP et Exxon prospèrent dans le secteur du pétrole et même du gaz au Venezuela.
Alors, autre anecdote qui est amusante, c'est le téléphone portable vénézuélien. Alors, vous donnez l'exemple qui devait être vendu 7$ et vous expliquez comment il fait faire ce téléphone. C'est hallucinant, quoi.
Alors oui, c'est un exemple très intéressant qui est assez drôle et acide, puisqu'en 2009, Chavez s'est associé avec ses grands amis communistes chinois pour créer là aussi une entreprise mixte entre les deux pays. Et l'idée, c'était de commercialiser un portable qui n'est à multifonction, qui n'était pas encore un smartphone tel qu'on peut les connaître dans nos pays, mais avec un appareil photo, diverses fonctions, et pour un prix défiant toute concurrence, 7$, et d'en faire une sorte de champion de l'altermondialiste sauce bolivarienne avec fabrication chinoise. Donc dans les faits, qu'est-ce que ça a donné? En fait, c'était un téléphone qui a été fabriqué par des ouvriers chinois dans les conditions que vous imaginez,
oui,
puis assemblé au Venezuela dans une zone franche, avec des employés payés en lance-pierre, interdits de se syndiquer, soumis à des cadences infernales, puisque pour la petite histoire, le téléphone, les premiers exemplaires, les premiers milliers d'exemplaires ont dû être prêts pour la Saint-Valentin, pour faire un coup marketing. Donc en 10 jours, ils ont dû booster, mettre la pression sur les employés. Et les quelques employés réfractaires qui voulaient se syndiquer ont été tout simplement licenciés. Et vous avez notamment cette phrase légendaire du patron de l'entreprise mixte vénézuélien, qui est quasiment un commis de l'État, qui s'appelle Vetelka, qui a dit, mais en régime socialiste, pas besoin de se syndiquer. Hein. Et ça faisait écho d'ailleurs à un mot fameux de Chavez que, là encore, Mélenchon n'assumera pas entièrement, puisqu'en 2007, Chavez avait dit, je cite, les syndicats n'ont pas à être autonomes, il faut que ça cesse. Voilà.
Autre mythe aussi.
Mais il a marché ce téléphone ? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Il a marché sur le marché vénézuélien.
Sur le marché vénézuélien, mais après, de toute façon, c'est une qualité chinoise. Donc,
mais Chavez promettait d'inonder le marché mondial, d'en faire un fleuron de l'industrie sino-vénézuélienne.
Donc, et ça n'a pas marché.
Ça nous a échappé, ou alors ça nous a échappé.
Oui, on l'a pas vu, quoi. Peut-être que. Autre aussi mythe sur Chavez, c'est que l'État-providence, l'instruction gratuite, les soins médicaux, la sécurité sociale, c'était bien avant lui. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a eu une période ultra-libérale qui avait supprimé tout ça, mais ça existait déjà au Venezuela.
Oui, là aussi, on manque de hauteur de vue dans notre jugement de Chavez, puisqu'on a l'impression que c'est une sorte d'ogre ou de bienfaiteur rouge qui est venu au pays de l'ultra-libéralisme. En fait, il y a un État social qui est très bien installé au Venezuela depuis en gros 1958, qui a une rente pétrolière aussi qui a marqué ses 50 dernières années, qui permet d'engranger des revenus et de les redistribuer à la population. Mais il faut dire qu'en France et dans tout le monde occidental, on a un petit peu des œillères historiques et idéologiques, puisqu'on ne retient du Venezuela d'avant Chavez que les 10 dernières années, c'est-à-dire la conjonction de deux facteurs, puisqu'au début des années 80, la monnaie bolivarienne a complètement décroché par rapport au dollar. Et si vous ajoutez ce facteur à la chute momentanée aussi des prix du cours du pétrole, il y a eu une crise très brutale au Venezuela qui a dû aboutir quasiment du jour au lendemain à l'adoption de plans néolibéraux, de coupes sombres dans les dépenses, qui font qu'en 88, il y a eu une décennie d'ultralibéralisme effréné qui a mis à bas en fait l'État-providence qui était très bien installé. Il y a quelques chiffres éloquents. En 89, au tout début de la vague néolibérale au Venezuela, vous aviez 85% des petits Vénézuéliens qui bénéficiaient d'une éducation primaire complète, à peu près comme aujourd'hui. Et dans ce domaine, il faut rendre hommage quand même à Chavez. Même
si il l'a remis en place.
Oui, il a été porté aussi par un surenchérissement du cours du pétrole, mais il a remis en place une éducation à la hauteur, également un système de soins médicaux généralisé, même si là aussi il est très défaillant et que la nomenclatura bolivarienne se fait soigner dans des cliniques privées, ce qui en dit sur l'état du système public. Mais voilà, Chavez a été une sorte de restauration partielle de l'état-providence vénézuélien qui l'a précédé.
Comment vous expliquez, ça sera ma dernière question, enfin cette ignorance, mais surtout cette admiration aveugle, à droite comme à gauche, hein, et on a eu le même cas à une époque pour Castro, à chaque fois, c'est quoi ? C'est le soleil qui... On dit vraiment n'importe quoi sur ces gens-là, sur ces pays-là.
Alors, je pense qu'il y a un élément qui joue beaucoup aussi, c'est Chavez est venu en 98 quand même, c'est-à-dire 10 ans en gros après la chute du mur du Berlin, et il y a quand même un message d'espoir qu'il ne faut pas perdre de vue. En fait, en gros, son message, ce que retient Mélenchon, toute une partie de la gauche pro-Chavez, y compris certains milieux de droite pro-Chavez, c'est l'histoire n'est pas finie. Chavez nous dit un autre monde est possible, on peut être patriotique, socialiste, développer un discours national-syndicaliste, voire de troisième voie, puisque c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois, que ce que le front de gauche nous dit. Donc l'histoire n'est pas finie, ce qui est un message rassurant. qui porte un certain espoir. Mais là encore, lorsque vous grattez un peu, malheureusement, le réel vous rappelle certaines réalités.
Voilà, je voulais faire ce point parce que j'avais trouvé cet article très amusant, qui ne parle pas, bien sûr, de sa politique internationale, etc. Ce n'était pas le propos. Philippe Christel.
Oui, peut-être quelques observations. Bon, la première, c'est que, et juste pour la boutade par rapport à ce que j'ai entendu, c'est que moi, je ne suis pas totalement hostile à ce qu'on donne des CDD aux fonctionnaires.
Mais là, vous parlez de la France aussi.
Oui, enfin, je ne vois pas pourquoi ce qui serait beau à Caracas ne le serait pas.
Vous savez qu'il y en a plein, des CDD.
Oui.
Qu'on re-signe à chaque fois.
Oui. Enfin, ça, c'est plus pour les agents d'entreprises publiques que pour des fonctionnaires.
C'est vrai.
C'est pas la même chose. Bon, mais non, mais blague à part, ce que je voulais dire, c'est que je pense effectivement, et c'est là qu'on, l'esprit de la dernière intervention, là, c'est que évidemment, on peut pas comparer Castro à Chavez, puisque Castro est instrumentalisé par l'intelligentsia occidentale dans un contexte de guerre froide. C'est bien évidemment la grande victoire de la baie des cochons, etc., etc. J'ajoute que Castro a pris le pouvoir contre un État qui était quand même notoirement abject et qui était preuve.
Oui, on n'est pas.
Et deuxièmement, et Chavez a une volonté qui est d'exister avec une voix propre dans un système qui, en 98, est un système unique, puisque les États-Unis et le monde libéral a gagné et a écrasé tout adversaire possible. Donc il y a une voix contre laquelle il convient de lutter à la fois dans ses travers économiques, mais également dans son impérialisme, je dirais, le plus géographique. Hein. N'oublions pas que, comme chacun sait, on est en Amérique latine et que la doctrine Monroe n'est pas morte, que je sache. Et donc, il y a, je trouve, derrière Chavez, il y a une tentative réelle d'essayer de sortir de la tutelle. C'est pour ça que je posais la question sur le, j'ignorais l'anecdote du téléphone portable vénézuélien co-construit par les Chinois. Mais comparaison n'est pas raison. Mais enfin, le plan calcul du général de Gaulle procède des mêmes intentions. Alors après, on a les ingénieurs qu'on mérite et on a le système qui permet d'avoir les élites qu'on a et qui permettent de réussir cette histoire de téléphone ou de faire la fusée Ariane, c'est autre chose. Mais voilà, je trouve que autant il faut battre en brèche la caricature ultra positive ou ultra négative d'un Chavez, je pense que l'histoire jugera, c'est toujours pareil, mais une bonne partie de ces tentatives sont, me semble-t-il, plutôt honorables, sachant qu'on n'échappe pas à qui on est et donc à l'origine prolétarienne de sa vision du monde, semble-t-il. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et deuxièmement, que dit la presse allemande, anglaise de Chavez? Parce que on sait très bien que pour ce qui est de caractériser un régime politique, la presse française est quand même particulièrement dotée d'œillères s'agissant de ce qui se passe sur la scène politique étrangère. Et donc, comment la presse allemande parle de Chavez, par exemple? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez regardé. Mais c'est pas vous que je pose la question, Patrick.
Oui,
donc, je sais que vous allez me répondre, mais c'est pas vous que je pose la question.
Je parle pas l'allemand, voilà.
Oui, alors j'ai le même problème que Patrick pour la presse allemande, mais alors je vais vous parler d'autres presses, par exemple.
Oui, presse espagnole.
Par exemple, la presse israélienne a sorti des analyses assez nuancées, notamment malgré tout l'anti-impérialisme, tout ce qu'on connaît des rapports de Chavez avec l'Iran, ils ont sorti des analyses assez nuancées sur le rapport de Chavez à la démocratie et aux masses, puisque contrairement à ce que dit la droite parlementaire française, bon, Chavez était tout sauf un dictateur. Voilà, il marche.
Oui, ça fait partie des imbécilités qu'on a.
Voilà, il marche avec son rapport aux masses, qui marche plus ou moins bien d'ailleurs, puisque les taux de participation aux élections étaient en chute libre au fil des années. Mais dans l'ensemble, oui, il y a eu des bonnes surprises, y compris dans des pays réputés être les ennemis du Venezuela bolivarien.
Oh, voilà, vous avez la presse israélienne au lieu d'avoir la presse allemande, mais on ne parle pas l'allemand.
Vous parlez l'hébreu. Non, mais c'est important que. Attendez, vous devez toute information.
Non, c'est vrai que. Mais je peux le dire, je parle à peine le français, mais j'essaye de faire un effort sur Radio Courtoisie. Voilà, on va faire juste une petite pause et puis on va vous retrouver, mon cher Philippe, pour une actualité européenne, je pense, énorme ce mois-ci, mais pas de football.
Pas de football.
On peut l'annoncer déjà.
Ça, vous pouvez l'annoncer.
Aux auditeurs de Radio Courtoisie, nous ne parlerons pas, nous ne donnerons même pas le résultat du match.
Non, parce que nous ne l'avons pas.
Parce que nous ne l'avons pas, et si on l'avait, je pense que je ne le donnerais pas. Voilà, petite pause musicale.
retour pour cette troisième partie des chroniques de la vieille Europe, pendant que nos invités sont en train de partir, parce qu'ils vont essayer, mon cher Philippe, de s'extraire de ce quartier qui est devenu le quartier du football en ce moment, mais enfin, ça sera terminé d'ici quelques minutes, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Mon cher Philippe, l'actualité européenne, heureusement, il n'y a pas que du football, il y a bien d'autres choses.
Oui, il y a beaucoup de choses, et avant de rentrer dans l'actualité, je vais prendre un peu de hauteur, grâce notamment à un très bon article que j'ai saisi au vol dans l'excellente, la toujours excellente Nouvelle Revue d'Histoire, son numéro 65 de mars-avril, puisque, vous savez, c'est l'avantage de, c'est ce qu'on dit, c'est qu'avec l'histoire, les années passent et on essaye de, l'émotion se diffuse un peu et on essaye de parler, de pouvoir parler de choses dont on ne parlait pas avant. Eh bien, l'émotion n'est pas encore totalement dissipée sur la Seconde Guerre mondiale et les drames vécus par les nombreuses populations civiles qui en furent victimes, mais une certaine chape de plomb commence à se fissurer concernant le sort des Allemands et notamment des Allemands de l'Est qui ont été largement persécuté à la fin de la dimension militaire de la Seconde Guerre mondiale. Je parle de ça puisque j'ai la dernière fois j'ai eu l'occasion d'évoquer le fait que le Premier ministre tchèque avait solennellement adressé ses excuses aux Allemands pour le traitement dont qu'avaient subi les Allemands des Sudètes dans l'immédiate après-guerre. Eh bien, la Nouvelle Revue d'Histoire fait état d'un livre qui s'appelle « Les expulsés ». Le titre est sobre, il est paru chez Flammarion. Son auteur est un Américain qui s'appelle Douglas, R.M. Douglas. Et alors, il s'agit d'une somme tout à fait impressionnante sur les quelques 14 millions d'Allemands qui ont été expulsés de force entre, grosso modo, 1945 et 1948, dans des conditions absolument inhumaine puisque on estime qu'environ 2,2 millions d'entre eux vont mourir. 2,2 millions d'entre eux vont mourir, ce qui en fait ce qui en fait le crime absolu de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que je ne vais pas me livrer à une sorte de concours d'atrocité. Les scènes qui sont décrites sur ces populations qui sont des populations de femmes, d'enfants et de vieillards, puisque par définition l'ensemble des pays de langue allemande ou d'habitat allemand ont été vidés de leurs hommes pour remplir les rangs des différentes troupes militaires du conflit. Et donc, ce qu'on subit et les anecdotes rapportées sur ces populations sont absolument innommables et font froid dans le dos. Ce qui est intéressant, c'est que le livre de Douglas, et à l'évidence, notre ami Douglas sait ce qu'il fait, présente comment miroir des images que nous avons traditionnellement en tête quand nous parlons de persécutions de victimes civiles pendant la Seconde Guerre mondiale, on pense bien évidemment aux persécutions dont ont été victimes les populations juives en Europe, eh bien l'auteur présente absolument les mêmes photos, les mêmes descriptions. On voit des photos d'Allemands sur les corps ou sur les habits desquels on a tracé des croix gammées, puisque par définition, un Allemand est un nazi, etc. On a ces photos absolument atroces d'enfants qui sont squelettiques et qui souffrent de la faim. On voit ces corps décharnés avec tant les visages que les membres inférieurs qui sont gonflés par des édèmes qui sont dus à la faim. On voit ces populations en pleine neige qui sont stockées, qui sont ramassées, qui sont drossées contre des wagons à bestiaux, des populations exclusivement de femmes et d'enfants. On voit bien évidemment des traces de corps dans les fosses communes. Enfin, il y a là quelque chose d'absolument saisissant. Et ce qui est assez saisissant, c'est pas tant le crime en lui-même que le fait qu'il soit bien évidemment tu, comme si certains devaient, comme si on ne devait pas parler du malheur des Allemands. Or, faut savoir que aujourd'hui, à l'époque, hein, c'est donc pas loin de 14 millions d'Allemands. Alors les zones les itinéraires sont décrits, les foyers de population sont décrits. C'est assez saisissant, c'est très bien documenté. Ces gens-là ont été bien évidemment rapatriés entre guillemets dans une zone qui était à l'époque dans des zones qui étaient les zones d'occupation soviétique, américaine, britannique ou française, qui était donc l'Allemagne qui elle-même était totalement ravagée, donc des zones qui ont accueilli des gens qu'il a fallu nourrir, qu'il a fallu presque habiller. On a des statistiques de taux de mortalité qui sont absolument insensées. Je pourrais donner quelques chiffres, je vais en donner un seul. Dans le secteur américain, parmi les enfants qui sont nés à l'été 45, 19 sur 20 sont morts. 5% de survie du fait de la famille principalement. Je vais donner un autre exemple. Dans la ville de Berlin, qui était un des principaux centres de regroupement de tous ces réfugiés de l'Est, en août 45, le nombre de décès quotidiens s'élève à 4000 contre 150 avant la guerre. Et il faut que les gens sachent, parce que ce sont des choses dont on n'a pas idée, c'est que les expulsions ont fini par se stabiliser, s'arrêter en 1948. Les dernières expulsions, c'est fin 48. Et figurez-vous que le camp de Dachau, dont on parle souvent, le camp de Dachau a fonctionné comme site d'hébergement pour ce qu'on appelle les Allemands ethniques jusqu'en 1965. Jusqu'en 1965, il y avait des gens qui sont arrivés de toute l'Europe et qu'on faisait vivre dans un camp parce qu'on n'arrivait pas à leur trouver de la place dans le pays. Donc on considère aujourd'hui statistiquement que pas loin d'un cinquième ou un quart de la population allemande d'aujourd'hui se compose d'expulsés ou de descendants directs d'expulsés. C'est ce qui donne d'ailleurs la force importante à cette association des réfugiés dirigée par la députée Erika Steinbach et députée CDU dont nous parlons récemment. Et donc, dernière citation, en octobre 1946, une journaliste qui s'appelle Anne McCormick, c'est la première femme journaliste à remporter le prix Pulitzer, vous voyez, c'est le côté féministe du sujet, elle l'a remporté en 1937, elle a réalisé une série d'articles pour le New York Times et elle conclut ainsi son reportage: l'ampleur des déportations et les conditions dans lesquelles elles se déroulent sont sans précédent dans l'histoire. En voyant ces atrocités, nul ne peut douter qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité pour lequel l'histoire exigera un terrible châtiment. L'idée n'est pas à la vengeance dans mon propos, donc l'idée n'est pas de demander des châtiments pour tel ou tel. Après tout, c'est le rôle des Allemands de le revendiquer, mais l'Européen n'est pas ainsi. En revanche, on ne peut donc pas totalement méconnaître cet héritage si proche. Et à l'heure où, malheureusement, l'Europe entière, l'Europe occidentale entière, victime de sa stratégie de cigale, est en train de redévelopper à nouveau un anti-germanisme contre ces fourmis que sont les Allemands qui ont travaillé si dur, à qui on a laissé que la carte de l'économie pour s'en sortir après 1945 et qui ont tant souffert, eh bien je voudrais que l'on se rappelle de cela pour ne pas tomber dans des panneaux qui sont trop, beaucoup trop grossiers. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce livre de A.M. Douglas, Les Expulsés chez Flammarion, et livre pour lequel vous pourrez lire quelques éléments dans la nouvelle revue d'histoire de mars-avril.
Il faut dire que c'est un livre qui, je pense, qu'il y a 10 ans n'aurait même pas été publié.
Parce qu'il y a 10 ans, on est
chez Flammarion, on est dans une maison, ce qu'on appelle la grande diffusion, et ça prouve au moins que sur l'histoire, l'Europe commence à voir, à prendre en main son histoire et à dire un peu la vérité.
Mais il y a encore 2 ans, dans les réunions de ce qu'on appelle le Triangle de Weimar. Le Triangle de Weimar, c'est, les auditeurs le savent, c'est une réunion technique entre la France, la Pologne, l'Allemagne. Régulièrement, ce triangle, alors aujourd'hui, il traite de sujets plus économiques, plus liés à l'Europe de la défense, etc. Mais il y a encore 2 ans, la Pologne, à l'époque des frères Kaczynski, avait exigé de l'Allemagne qu'elle exclue de sa délégation Erika Steinbach, qui avait le tort de rappeler que les Allemands de Silésie, Poméranie ou Prusse-Orientale avaient été injustement spoliés, si ce n'est froidement massacrés.
Alors, autre sujet.
Autre sujet, là, peut-être plus centraux dans l'actualité européenne ou peut-être même globale, mondiale. Alors, on essaye d'avoir de prendre l'habitude dans notre émission de faire partager à nos auditeurs de bonnes nouvelles sur le fait que l'Europe que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire solidement arc-boutée sur un axe Paris-Berlin-Moscou, des bonnes nouvelles de cette Europe-là. Mais une fois n'est pas coutume, je vais donner des mauvaises nouvelles, ou plutôt des mauvaises nouvelles, parce que elles sont synonymes de l'accroissement de la vitesse à laquelle le centre de gravité du monde se déplace, quittant notre ère de civilisation européenne ou occidentale, disaient les anciens, mais on sait aujourd'hui que ce mot d'Occident qui unit l'Europe et les Américains est aujourd'hui n'a plus de sens, puisque c'est unir deux compétiteurs qui ne s'aiment pas, qui ne se veulent pas du bien. Donc le centre de gravité se déplace. Un bon exemple, vous avez vu, Patrick, parce que vous suivez l'actualité, que la Chine a un nouveau président.
Oui.
Je vous demanderai pas de déplacer son nom. Il s'agit de Xi Jinping.
Même l'ancien.
Voilà. C'était plus facile, l'ancien. Mais Xi Jinping, vous savez, quand on nomme un président, où que ce soit, c'est très intéressant. On regarde où va-t-il. À qui réserve-t-il sa première
visite?
Quand c'est un nouveau chancelier allemand, il vient à Paris, un nouveau président à Paris, il vient en Allemagne, blablabla. Bon. Et quand c'est un Chinois, où va-t-il? Pour la première, c'est facile. La deuxième est plus compliquée.
La Corée, non?
Non, la première, il va en Russie.
Ah bon?
Xi Jinping, il va en Russie. Et il est allé, sa première visite officielle a bien été en Russie. Maintenant, la deuxième, avant l'Amérique. Avant l'Europe, avant où que ce soit en Asie, considérant que la Russie n'est en...
Il ne va pas en Europe, donc c'est en Afrique.
Et il est allé en Afrique.
Ah ouais.
Et voilà notre ami Xi Jinping qui vient de s'offrir un périple de 8 jours en Afrique. Alors les étapes sont la Tanzanie, le Congo, Brazzaville et surtout l'Afrique du Sud, je vais y revenir. Ce qui est intéressant, c'est que à l'évidence, on a beaucoup glosé sur la volonté de Xi Jinping de poursuivre une politique nationaliste, patriotique, déterminé à faire que la Chine ne soit plus entravée dans son développement, que ce soit dans le Pacifique Sud, que ce soit dans l'océan Indien, etc. Mais le prolongement de ça, c'est aussi cette visite en Chine. Je rappelle que les investissements depuis 2009, les investissements chinois ont augmenté de 60% et qu'on compte entre 1 et 2 millions de commerçants chinois en Afrique. Mais surtout, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et donc, c'est en cela que, quand je dis que le centre de gravité du monde se déplace, c'est que, on le sait depuis maintenant très longtemps, la France a disparu faute de moyens. Les pays africains qui sont les principaux destinataires des investissements chinois, c'est l'Algérie, le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo, ex-Congo Zaïre, l'Éthiopie, l'Angola et l'Afrique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que les États africains commencent à distinguer le bon du mauvais dans la percée chinoise. Alors, parfois, ils y sont particulièrement aidés par leurs compétiteurs, principalement américains, qui aident donc certains dirigeants africains à faire des tribunes particulièrement peu amènes à l'endroit de Pékin. Donc, effectivement, c'est l'affaire de la tribune du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria dans le Financial Times. Je le cite, il est temps pour les Africains d'ouvrir les yeux sur les réalités de leur romance avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine capte les matières premières et inonde le continent de produits manufacturés à bas prix sans transférer de savoir-faire. C'est l'essence du colonialisme, continue-t-il, déplorant ainsi que l'Afrique s'ouvre d'elle-même à une nouvelle forme d'impérialisme. Alors on pourrait pondérer en disant que je ne sais pas quelle est la perception exacte de ce que ce monsieur a du mot colonialiste. Alors le Nigeria, ce monsieur n'a pas connu le colonialisme à la française, le colonialisme puisqu'il a connu un colonialisme celui de la couronne et du Commonwealth, mais le colonialisme à la française, c'est pas exactement ça. C'était mieux, c'était pire, j'en sais rien. En tout cas, c'est différent. Non, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les Chinois sont tout à fait conscients que derrière leurs investissements, ils commencent à se se structurer une opposition à leur manière assez agressive d'aller pomper de la matière première et même du coup en inondant le marché, comme le dit le Nigérian, avec ses produits faiblement manufacturés, enfin manufacturés à bas prix, il empêche la création des entreprises émergentes. Il y a notamment en Afrique du Sud des voix qui s'élèvent là aussi pour rééquilibrer cette vision, mais au détriment de qui s'exerce aujourd'hui au détriment des entreprises sud-africaines. Ça n'a pas empêché la vraie grande décision, me semble-t-il, de la semaine dernière, qui a été relativement peu commentée par la presse, et là encore je le déplore, qui est le fait que les fameux BRICS, hein, donc vous connaissez BRICS, B-R-I-C-S, qui est l'acronyme pour parler de B Brésil, R Russie, I Inde, C Chine et S South Africa, Afrique du Sud. Donc les BRICS ont décidé, lors de leur sommet à Durban, de lancer leur propre banque mondiale. Donc ça c'est important parce que depuis longtemps, nous en parlons, nous disons attention, ils sont en train de se structurer sans nous. Et ils ont bien raison, pour échapper au dollar, pour échapper aux fourches codines du FMI, pour échapper aux fourches codines de la Banque mondiale, pour essayer d'éviter de subir les dommages collatéraux des crises financières en Europe, aux États-Unis, eh bien ça y est, il y a une décision. Je rappelle que les BRICS, hein, les 5 pays que j'ai cités, c'est 43% de la population mondiale, 25% du PIB mondial, 15% du commerce mondial. Alors c'est pas tout. C'est sûr, quand on met en face la zone euro de l'Union européenne, les États-Unis et le Japon, ça fait encore, hormis en population, une sacrée force économique. Mais enfin quand même, ces pays-là se sont retrouvés sur une volonté politique commune pour créer dans un premier temps leur banque de développement. L'idée, c'est 50 milliards de dollars de capital, avec une répartition équilibrée de 10 milliards chacun, ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour les pays les plus pauvres, soit dit en passant. C'est pour ça que ça peut encore à choper cette affaire. Mais l'idée très clairement affirmée, c'est bien ne plus passer par les fourches codines des institutions qui, je le rappelle, sont, on parlait de la Seconde Guerre mondiale, sont principalement issues des accords de Bretton Woods à l'époque où ces pays émergents étaient totalement inexistants, Russie mise à part, mais dans un autre système que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les think tanks des différents de ces différents pays, eux, font différents plans sur la comète et vont un petit peu plus loin. Ils vont même dans une logique qui pourrait être la création d'un fonds de stabilisation, voire de la mise en commun de réserves de change. Si mise en commun de réserves de change il y a, c'est un pot commun qui pourrait atteindre les 240 milliards de dollars. Et 240 milliards de dollars, cette fois-ci, c'est la possibilité pour n'importe quel pays adhérent d'éviter le recours au FMI, donc d'éviter le recours au dollar. Et l'enjeu, le rêve de ces BRICS, c'est de sortir de cette situation avec le dollar comme monnaie de réserve. On pourra frémir le jour où effectivement ils se seront extraits du monstre dollar, puisque nous y resterons profondément encristés. Autre mauvaise nouvelle, cette fois-ci elle nous concerne directement, c'est que je l'ai noté dans la revue trimestrielle. La revue trimestrielle, c'est, vous allez voir que j'ai des mauvaises lectures, c'est la prose trimestrielle, comme son nom l'indique, de la Commission de Bruxelles.
Ah bah oui.
Et voilà, mardi 26 mars dernier, c'était sa dernière livraison, et elle était consacrée à la situation sociale en Europe. Et ce qui était intéressant et attristant de voir, c'est les derniers chiffres sur la fécondité européenne. Ces chiffres sont très mauvais et continuent à être particulièrement mauvais. C'est pour la première fois dans le bilan assez noir que je vais vous donner, depuis 2009, l'indicateur européen de la fécondité en Europe a cessé de progresser. Et pour la première fois, il se stabilise à un niveau légèrement inférieur, avec 1,6 enfants par femme dans l'Union. On sait que le taux idéal de renouvellement des générations et d'accroissement naturel, c'est 2,1. C'est à partir de 2,1. Donc on a, on le sait, toujours l'Irlande en tête avec 2,05, la France juste derrière avec 2,01, et puis derrière, c'est évidemment la catastrophe. Le pire étant les chiffres de l'Allemagne et de l'Espagne avec 1,30.
36 enfants par femme, et je ne parle pas de 1,25 en Roumanie, et quand on connaît la démographie des populations roms, on imagine le solde, et 1,23 en Hongrie. Les autres chiffres, c'est l'âge de naissance du premier enfant qui est désormais porté à 30 ans pour les femmes, et puis c'est l'explosion du nombre de divorces. C'est le plus bas niveau historique en 2011 pour les chiffres du mariage, avec d'ailleurs des chiffres étonnants, c'est-à-dire que les pays où on se marie le moins sont l'Italie et l'Espagne, alors qu'on aurait pu imaginer que la tradition fortement catholique de ces pays encourage, mais quand on voit les taux de chômage pour les jeunes, notamment en Espagne et en Italie, on voit bien à quel point c'est inimaginable de fonder une famille, de prendre des risques, d'avoir des enfants, et c'est particulièrement préoccupant. Et en revanche, l'espérance de vie continue à augmenter, avec 77,4 pour les hommes, 83 pour les femmes. Je vous annonce d'ailleurs que les hommes vivent le plus longtemps en Europe, en Italie, et les femmes en France. C'est probablement
très bien.
Notre réputation qui veut cela.
C'est-à-dire en Italie.
Quelques éléments plus peut-être qui vont dans le sens de cette crise européenne. Je ne vais pas refaire l'analyse de la crise chypriote et de la décision absolument scandaleuse qui a consisté à prétendre taxer les dépôts bancaires. D'abord, je voudrais que nos électeurs, nos auditeurs aient en tête un chiffre, parce que je pense qu'il relativise un certain nombre de choses. Allez, ça fait 15 jours qu'on nous explique que Chypre, c'est très compliqué, que c'est devenu Limassol-Grad, parce que en fait, il y a des avoirs russes à Chypre et que tout ça, d'ailleurs, c'est pas forcément très propre, c'est QFD, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je signale que les avoirs de Roman Abramovich, qui est l'oligarque en chef à Londres, propriétaire du club de Chelsea, les avoirs de Roman Abramovich sont supérieurs à Londres, sont supérieurs à la totalité des avoirs russes à Chypre. Terminé, fermez le banc. Donc, s'il y avait des décisions qui étaient financièrement prises pour préserver les avoirs des oligarques russes, je ne suis pas certain que ce soit ceux de Chypre qui pèsent plus que ceux de Londres, sans parler de ceux d'ailleurs. Pour finir, dernièrement, ce qui me paraissait intéressant, c'est ce que les médias, toutes catégories confondues, ont appelé la bourde du patron de l'Eurogroupe. Alors le patron de l'Eurogroupe, vous le savez, c'est un Néerlandais, il s'appelle Dijsselbloem. Et alors, tout le monde dit, mais c'est pas possible, ce gars-là, il vient tout juste d'être nommé, il a fait une bourde, il a fait une gaffe, c'est incroyable ce qu'il a dit. Le type, il a juste dit la vérité, c'est ça qui est incroyable. Le type, il a dit, c'est ça qu'on va faire, puis c'est ça qu'on refera. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il a dit qu'on allait faire et qu'on va refaire, je vais vous le redonner. Si une banque à risque ne peut pas se recapitaliser elle-même, alors nous, l'Europe, la zone euro, nous discuterons avec les actionnaires et les créanciers obligataires et nous leur demanderons de contribuer. Donc, si une banque est en faillite, on demandera aux actionnaires. Alors, soit les actionnaires sont rincés, ils n'ont plus un rond, ils ne peuvent plus. Les créanciers en obligation, pareil. Et si nécessaire, nous demanderons aux détenteurs de dépôts non garantis. Alors, des mots, susceptibles d'affoler les marchés. Alors, tout le monde dit, mais c'est incroyable, il n'aurait jamais dû dire ça. Pour donner une information, on considère qu'un dépôt garanti, aujourd'hui, c'est 100 000 euros. Alors, la majeure partie des gens n'ont pas plus de 100 000 euros sur un compte bancaire et donc ne sont pas concernés. Sauf que, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un peu plus de 100 000 euros sur un compte bancaire, et que si tous ces gens-là considèrent que leurs carottes sont cuites et qu'il faut donc sortir de ce système financier, le remède risque d'être pire que le mal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, on voit bien que la nouvelle technique est prête. Maintenant, on va ponctionner les clients et ponctionner ceux qui subissent déjà ce système. Ce qui est intéressant, je vais pas faire de le raisonnement économique, savoir si c'est vertueux, pas vertueux, s'il y a une autre solution ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce type-là a dit la vérité, il sera non pas exécuté, mais on vient d'expliquer qu'il a eu quand même le tort de faire partager au commun des mortels, c'est-à-dire aux gars qui vont se faire ponctionner sur leur compte en banque, la recette et la raison du crime. Voilà où on en est dans notre belle démocratie.
Ce qu'on peut dire quand même sur cette zone euro, c'est que maintenant il y a deux zones euro. Il y a Chypre où on ne peut plus sortir d'argent, on ne peut plus rien faire, et l'autre zone euro qui est la nôtre,
et ça va donner quand même des idées, je pense, aux fameux comptes, parce que beaucoup de personnes, effectivement, ont pas 100 000 euros sur leur compte, mais il y en a certains, il suffit de vendre un appartement et se retrouver avec ce genre de somme, vont peut-être commencer à réfléchir à savoir où ils vont mettre cet argent. Sachant que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que les fameux comptes garantis, il y a eu quelques calculs qui ont été faits, il faudrait, en France, on pourrait garantir une petite banque. Si demain cette banque faisait faillite, le gros problème c'est qu'il n'y a pas de petite banque en France. Donc si la BNP, la Société Générale, sautait, je ne suis même pas sûr que les comptes garantis, on puisse les garantir. Voilà.
Alors quelques éléments rapidement, peut-être un premier pour saluer un geste, pour une fois un geste un peu romain, un peu honorable, et puis ça se passe en Italie, vous avez peut-être vu ça avec la démission du chef de la diplomatie italienne qui est Giulio Terzi, que je voudrais saluer. Donc il fait partie de ce gouvernement qui gère les affaires courantes, hein. C'est donc le ministère des Affaires étrangères de Mario Monti. Il y a quelques semaines, suite à une bavure, les fusiliers marins italiens qui gardent les installations italiennes en Inde ont passé à la sulfateuse deux innocents pêcheurs indiens qui passaient au large et qu'ils avaient pris pour des pirates. Bon. Moyennant quoi, le gouvernement indien trouve que les fusiliers marins ont la gâchette un peu rapide et demande des comptes à l'Italie. Laquelle Italie, au lieu de présenter des comptes et de s'excuser ou de je ne sais quoi, décide unilatéralement de rapatrier les fusiliers marins à Rome pour éviter qu'ils soient pris, condamnés, etc. Ce qui est pas très subtil, parce que ça a quand même plutôt vexé les Indiens, qui du coup ont confisqué le passeport de l'ambassadeur, qui ne peut plus sortir d'Inde. Ah, donc résultat des courses dans ce bras de fer, eh bien Mario Monti, dont on connaît la force, hein, la colonne vertébrale, la cuirasse des reins, un homme d'État, un vrai, a donc décidé de renvoyer les deux fumacos là-bas, enfin ça s'appelle pas des fumacos chez les Italiens, mais chez les deux fusiliers marins, qui seront probablement donc jugés, enfin je sais pas ce qui va arriver. Et donc, le chef de la diplomatie italienne, qui avait à la fois tenu une position différente et qui, lui, doit se souvenir ce que c'est que l'honneur et la dignité, a décidé de démissionner. Je voulais saluer ce geste. Bon. Quelques rendez-vous, quelques initiatives à suivre. La première, réservez, Patrick, votre 18 septembre 2014.
D'accord.
Hein, c'est la date du référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
Ah oui.
Ça y est, on a la date.
Bon, non, on en parlera, hein, je pense.
On en parlera. Bon, ce serait, oui, je vois le chronomètre et j'ai pas le temps, donc ce serait pourtant assez intéressant de faire un. Il faudrait demander à notre ami Essérique de nous trouver un francophone du SNP. Et forcément un francophile au nom de l'Old Alliance, n'est-ce
oui.
pas?
Bon. Oui.
C'est intéressant parce que. Le parti pris des Écossais, c'est quand même ce qu'on appelle la stratégie du canoë, hein, ces petits pays qui s'en sortent mieux seuls. En gros, l'Écosse, c'est un petit pays qui pourrait fonctionner comme une petite Norvège avec ses revenus tirés du pétrole de la mer du Nord, qui produirait 100% de son énergie grâce à l'ensemble du renouvelable et qui vivrait de ses services financiers et de son whisky. Et pour les Anglais, on voit bien ce que représente cette perte. Hein, c'est économiquement, ils sont relégués derrière l'Italie, ils perdent le tiers de leur territoire. Et surtout, les bases de leurs sous-marins nucléaires que les indépendantistes veulent fermer. Il y a derrière toute une série de thèses qui ne sont pas totalement claires encore du côté des amis d'Alex Salmond, le patron du SNP. Alors, ils sont pacifistes, ils refusent les missiles nucléaires, mais ils veulent rester dans l'OTAN pour protéger leurs compatriotes leurs compatriotes à l'étranger. De la même manière, et ils rêvent d'Europe, mais ils veulent quand même conserver la livre britannique, hein, parce qu'il ne faut pas affecter les fameuses veuves écossaises, les célèbres fonds de pension. Une chose est sûre, ils sont prêts, ils le souhaitent, ils veulent conserver la reine, et donc, quel que soit le résultat de ce référendum, ils ne priveront pas le prince Charles de son kilt. On aurait pu imaginer un prince Charles enlevant son kilt et chantant « Et merde pour la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre », ça aurait été drôle, mais c'est pas ça qui va se passer.
Vous savez que les Irlandais disent toujours, ils ont amené deux choses aux Écossais, le whisky et le kilt. Et ils disent toujours, les Écossais, ils n'ont pas compris que le kilt, c'était une blague. Voilà. Vous avez encore deux minutes. Allez, dernièrement, très intéressant, les eurosceptiques allemands se fédèrent et se lancent en politique. Donc là, on est sur un petit parti qui s'appelle l'Alternative pour l'Allemagne et qui vise l'électorat conservateur déçu par la politique d'Angela Merkel. Il y a beaucoup de gens qui demandent en Allemagne, et pas des moindres. Hein, la principale figure, c'est Hans-Olaf Henkel. Hans-Olaf Henkel, c'est l'ancien président d'IBM Allemagne et du patronat allemand, le BDI, donc l'équivalent du MEDEF, mais en plus propre, de 2000 à 2005. Et donc il faudra surveiller ce parti qui se présentera et aux législatives de septembre prochain et surtout au scrutin européen de juin 2014. En Angleterre, c'est pareil. J'aurais voulu vous détailler tout ce que le Premier ministre Cameron vient de durcir dans sa législation contre les immigrés, y compris ceux originaires de l'Union européenne. Il y aurait moult choses à copier de la part de tous ces pays dits de droite, partis dits de droite qui sont avec les conservateurs au Parlement européen. Ce qui est assez drôle, c'est que on tape sur le dos de Viktor Orban pour les changements constitutionnels en Hongrie, mais David Cameron prend des décisions qui ont moi-même failli me choquer, c'est vous dire. Ah oui. Et puis, alors puisque j'ai plus qu'une minute, et pour la séquence à la fois nostalgie et pour un appel à la mobilisation, parce qu'il faut des appels à la mobilisation, c'est important.
Allez-y.
Je vous signale que pour la première fois cette année, une entreprise familiale qui va fêter ses 106 ans et dont le dirigeant actuel est l'arrière-petit-fils du fondateur, Jean Hénaff. Pour la première fois, le pâté Hénaff est en difficulté et dans le rouge. Oui, Patrick, voilà. Dans le rouge.
Catastrophe.
Donc je dis aux auditeurs et aux auditrices, consommez du pâté Hénaff. Il y a aussi des rillettes en conserve, semble-t-il. C'est le pâté Hénaff, c'est 39% de ce chiffre d'affaires de cette PME bretonne de 214 salariés, bien de chez nous, qui fait du cochon à poule de Rosic et qui est en difficulté. Donc elle va se refaire, c'est sûr, mais aidez le pâté Hénaff. C'est à ce prix que nous construirons aussi la Grande Europe de Paris, Berlin,
et
Moscou.
Et qu'on ne soit pas nostalgique d'ici quelques années de ne plus trouver cet excellent pâté jambon.
Et je n'ai aucune action en somme précise, mais j'aime bien les produits de cochon, et plus il y en a, mieux c'est.
Voilà, on a reçu tout à l'heure Olivier Kampf pour l'introduction à la cyberstratégie aux éditions Economica, et je vous signale que c'est jeudi que le causeur, le mensuel, est enfin en kiosque, et nous avions reçu Daoud Banzala pour parler de Chavez. Voilà, cette émission est terminée, on se retrouve dans 4 semaines, vous allez pouvoir réécouter ça jeudi soir ou sur le site internet de Radio Courtoisie. Bonne soirée.